Chers auditeurs, nous sommes vendredi le 4 avril et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors, chers auditeurs, je vous rappelle que le but de cette émission, c'est celui, bien sûr, de céder la parole à toutes celles et tous ceux qui souhaitent dénoncer les injustices, les abus du pouvoir. Nous vous rappelons également que nous sommes là pour vous, pour justement, afin d'amplifier votre voix. Nous sommes là pour vous appuyer, pour vous encourager de s'exprimer librement et de dire ce que l'injustice et l'abus du pouvoir font de notre société. Alors, l'existence de cette émission demeure la preuve et la conviction que l'injustice et les abus du pouvoir sont une pratique courante au Québec. Imaginez-vous, chers auditeurs, chères auditrices, qu'à chaque fraction de seconde, je dis bien, à chaque fraction de seconde, une injustice ou un abus de pouvoir naissent au Québec. Mais le silence est de plomb. Les victimes ne parlent pas, ils préfèrent se taire, ils abandonnent trop vite, ils pensent que c'est la meilleure chose à faire. Alors qu'en vérité, ils oublient que leur silence fait qu'ils deviennent complices de l'abus, de l'injustice à leur tour. Alors, je vous rappelle également, chères auditrices, chers auditeurs, que le seul moyen pour faire diminuer l'injustice et les abus de pouvoir dans une société comme la nôtre, c'est bien sûr de commencer par les dénoncer publiquement, hein, sans aucune crainte. Attention ici, je ne parle pas des abuseurs de la société civile, parce que les autorités s'en occupent très bien, je dirais même plus qu'il faut, voire à un point où on abuse royalement. Alors, débutons par exemple par le sommet. Vous avez dans le projet le C51 des conservateurs un bon exemple. Excusez-moi, cher auditeur, je voulais dire plutôt le projet ou les projets de notre Premier ministre, le grand César du Canada, et tout le temps ivre, jamais en contact avec la réalité. Alors, je vous rappelle constamment que la seule défense, je dis bien la seule défense que nous avons, c'est la parole, c'est la dénonciation, c'est de ne jamais cesser de dire non à l'abuseur du pouvoir. Je vous rappelle également, chers auditeurs, chères auditrices, si nous sommes abusés collectivement ou individuellement, c'est que nous avons toléré l'abus de notre abuseur. Il est aussi important et de devoir même de réfléchir avant plutôt d'avaler tout ce que l'autre nous présente. Je cite simplement à titre d'exemple, parce que ce n'est pas les exemples qui manquent, on a l'impression que la majorité des citoyens au Québec et au Canada ne se posent pas de questions, ils ne réfléchissent même pas. C'est si César qui le dit, c'est la parole divine, et nous devrons s'abstenir à toute critique envers toute objection qui peut le contredire. Et effectivement, avec cette parole, tout passe et repasse calmement, et l'injustice malheureusement s'installe toujours. Alors quand j'ai entendu, par exemple, dernièrement le Premier ministre Stephen Harper dire à propos de la présence des forces canadiennes en Irak et en Syrie, il le disait sans aucune gêne. Hein. Écoutez, chers auditeurs, il disait « Chers citoyens, nous avons le droit à l'autodéfense. Alors, on se défend contre une agression armée. » Et je me suis dit « Mais de quelle agression armée s'agit-il ? » Moi, personnellement, je n'ai pas vu des avions de chasse ennemis dans le ciel canadien. Je n'ai pas vu non plus des troupes ennemies attaquer sur le sol canadien. Alors, ça vient d'où, cette agression ? Et pour rappeler le droit de l'autodéfense, c'est un peu bizarre. Hein, il nous rappelle comme quoi on a le droit de l'autodéfense. C'est un non-sens. Un agresseur, imaginez-vous, un agresseur se défend d'être agressé. Essayez de comprendre quelque chose. Et je ne veux même pas non plus vous parler de ce projet aussi de la prison à vie sans aucune possibilité de libération. La condamnation à mort est une libération pour le criminel et pour la société. La réhabilitation est une seconde chance de vie, mais garder quelqu'un dans une prison à vie, elle est où l'intelligence ici? Moi, personnellement, je ne trouve pas. Et malgré ces insultes à l'intelligence humaine, on trouve des gens qui font facilement, ou plutôt qui sont facilement manipulés, absorbés par le mensonge et le ridicule. Alors que nous avons tous l'obligation d'avoir ce minimum d'intelligence afin de ne pas être ridiculisés au-delà des ridicules. Alors réfléchis Et pourquoi pas, quand il viendra le temps de choisir nos décideurs, nous allons être mieux éclairés et le choix sera probablement un peu meilleur. Alors regardez aussi cette sortie fracassante, je dis bien du ridicule de nos politiciens. Prenons par exemple François Legault, chef de la coalition Avenir Québec, un autre degré de ridiculisation. Il souhaitait lui aussi gagner quelques points sur le dos des immigrants, moi. Ce qui me dérange, comment il y a réellement des gens qui arrivent à penser de cette manière, la manière la plus ridicule qui peut exister et sans aucune honte. Alors écoutez, chers auditrices, chers auditeurs, je vous répète le modèle et la grande réflexion de François Legault, chef de la CAQ. Pour assurer, soi-disant, l'intégration des immigrés, il ne propose quoi ? Alors, une réflexion d'un politicien qui rêve d'être Premier ministre du Québec un jour. Suivez cette putain de logique, excusez-moi, et comprenez quelque chose. Après que les immigrants sont sélectionnés à l'étranger, et Dieu seul sait qu'il s'agit d'une sélection la plus sévère et la plus serrée qui peut exister au monde, M. Legault nous dit « on va les accepter temporairement de venir s'installer ici au Canada, ou plutôt au Québec, avec une condition. » Quelle condition s'agit-il, M. Legault ? Ah ben écoutez, ils vivent 3 ans ici, et après avoir complété cette vie de 3 ans, on va leur faire passer un examen de français, et celles et ceux qui échouent à cet examen, on va les retourner chez eux, tout simplement. Alors, je ne sais pas s'il était conscient ou s'il était sur le fait de la cannabis, mais sincèrement, est-ce qu'il peut avoir une personne qui peut réfléchir de cette manière-là ? Et le plus grave, personne de son parti ne lui avait empêché de commettre une telle gaffe. Est-ce qu'il considère vraiment les personnes comme des individus avec des droits, ou plutôt un troupeau de bétail qu'on peut le retourner quand il ne fait pas notre affaire. Alors je mettrai ma main au feu que François Legault lui-même ne passera pas le test de français au Québec. Qu'il passe d'abord le test de français dans les cégeps, dans les universités, avant justement d'aller taper sur le dos des pauvres immigrants. Je dis aussi maintenant, à propos de Bernard Drainville, lui aussi, il veut devenir un jour Premier ministre du Québec, c'est le plus gros saut que je n'ai jamais vu. On peut faire une thèse de doctorat sur le ridicule chez cette personne, et je ne vous racontais pas, je vais m'attarder vers la dernière, que vous la connaissez tous. Il est toujours accroché à son projet de laïcité de l'État, et lui a pris une longue réflexion, et pour corriger soi-disant le tir, il nous dit quoi ? Alors il nous dit qu'il a trouvé la solution à tous les soucis de la société. Alors vas-y, monsieur Drainville, on vous écoute. Alors écoutez bien, tous les fonctionnaires qui portent des croix sur le dos, qui portent des poupées autour des cous, qui portent un torchon sur la tête, une jupe sur le visage, pour ces gens-là, on ne peut rien faire. Autrement dit, ceux qui le sont déjà ou deviennent fonctionnaires avant l'application de cette charte québécoise des droits et libertés, eux, on va les laisser tranquilles. Ils sont libres de porter ce qu'ils veulent. Mais, regardez bien l'intelligence, mais pour les nouveaux, tout sera interdit de porter quoi que ce soit. Un droit acquis pour les premiers et une pure interdiction pour les seconds. Alors, selon M. Bernard Drainville, ça c'est la justice. Il s'agit d'un homme qui veut gouverner le Québec un de ces jours. Alors, je vous l'ai dit, les idiots, j'ai vu, mais pas de ce calibre. Et je peux même vous citer d'autres personnes qui sont rendues au pouvoir par votre complicité, chère auditrice, chers auditeurs. Vous les avez choisis. Ils ne sont pas tombés de nulle part. On peut tous faire des erreurs, bien sûr, on peut tous faire des erreurs. Mais surtout en politique, il y a des erreurs acceptables et d'autres inacceptables. Bref, il y a une fin à toute fin. Alors je reviens à mon émission de ce matin, dénoncer justement les injustices et les abus du pouvoir, nous vous rappelons, chères auditrices, chers auditeurs, que cette émission est pour vous, si vous êtes victime ou témoin d'une injustice ou d'un abus de pouvoir, nous vous inviterons à venir sur ce plateau et dénoncer le tout. Alors ce matin, nous allons écouter l'histoire d'une résidente de la ville de Sherbrooke. Donc cette personne a vécu à son tour une injustice et elle a souhaité bien sûr partager avec vous cette douloureuse expérience. Après notre thème musical, chère auditrice, chère auditeur, nous allons lui céder la parole. Restez à l'écoute. Chacun de nous a vécu une injustice, un abus de pouvoir et nous devrons les dénoncer publiquement. Nous n'avons pas d'autre choix. Sinon, nous sommes malheureusement complices. Cette émission, je le répète, est pour dénoncer et redénoncer les abus de pouvoir, les injustices. Nous souhaiterons décourager les abuseurs. Voilà, au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer les abus de pouvoir. Restez à l'écoute, chères auditrices, chers auditeurs. Nous poursuivrons cette émission après notre pause musicale. Oui, bonjour, chère auditrice, cher auditeur. Rebonjour, pardon. Alors, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Et aujourd'hui, nous avons avec nous une résidente, je pense, de la région de Sherbrooke, qui souhaite partager avec vous ce qu'elle a vécu comme injustice. Alors, bonjour, Madame Lacasse.
Oui, bonjour.
Bonjour, Madame Lacasse. Merci d'avoir accepté de témoigner sur ce plateau-là. Alors, je sais que vous venez un peu de loin. Vous habitez de... Vous nous appelez de la région de Sherbrooke, c'est ça, exact?
Oui, à Saint-François-Xavier de Brampton, près de Sherbrooke, à peu près 15 minutes de route.
Alors, Madame, je sais qu'il y a beaucoup sur vous, là. Est-ce que c'est la première fois où vous dénoncez un abus de pouvoir ou une injustice ou...
Je vous dirais que des injustices, j'ai essayé de dénoncer ça partout, au barreau, aux protecteurs du citoyen, partout, moi, je suis... Les injustices, ne tolère pas ça. Okay. C'est une personne qui est extrêmement honnête et qui vit vraiment avec intégrité. Et je ne tolère pas du tout et je dénonce toujours, toujours, toujours. Et puis, jamais, jamais, nulle part, je sais pas si le gouvernement, tous ces organismes-là nous font dormir au gaz. Parce que ils disent qu'on est protégé par l'Office des agents immobiliers du Québec, ils protègent le public, le barreau protège le public, le protecteur du citoyen protège le public, c'est faux.
Oui, oui. Mais madame de la Casse, pardon, vous quand même vous faites au moins les démarches, hein. On va revenir un petit peu à votre histoire, mais vous faites tous les démarches pour dénoncer, pour dire non. Vous détestez l'injustice comme tout le monde, presque, hein. Mais juste la différence, c'est que vous le dénoncez. Vous ne voulez pas baisser les bras.
Non, je ne baisse pas les bras. Les médias sont très durs à rejoindre quand le gouvernement est touché ou des systèmes comme le barreau ou tous ces systèmes-là qui sont une petite partie du gouvernement. Il n'y a pas personne qui s'en occupe. Les députés, il n'y a personne.
Oui.
Faut toujours se battre tout seul. Je pense que le seul moyen qui reste, c'est vraiment les médias et sont durs, durs, durs à approcher.
Très rapprochés. C'est bien dit. Alors, madame, on va revenir un petit peu à votre histoire. Vous travaillez dans la vie Sherbrooke. Vous avez travaillé combien d'années et dans quel domaine?
Moi, je travaillais comme préposé aux bénéficiaires au CHU à Sherbrooke.
Oui.
Mais avant ça, j'étais en Abitibi. J'avais beaucoup de misère à me trouver du travail. J'ai été à l'école jusqu'à 48 ans. Quand je ne trouvais pas de travail, je retournais sur les bancs d'école pour pouvoir sortir du système d'aide sociale et de chômage qui revenait toujours, toujours à la charge. Fait que je suis partie avec une remorque derrière ma voiture à 48 ans pour décider de me trouver un emploi stable.
Oui.
J'ai tout abandonné là-bas avec ma fille de 12 ans et puis je me suis trouvé un travail ici qui était stable, qui m'ont permis en fin de compte, en bout de ligne, de pouvoir me procurer ma propre maison parce
voilà.
que j'étais pas capable sur l'aide sociale au chômage.
Voilà.
La dernière année, j'ai habité à Val-d'Or. J'ai travaillé 4 jours dans mon année. C'était incroyable. Là, je voulais avoir un emploi stable. Je me suis emmenée ici. Mon but, c'était vraiment de m'acheter ma maison.
Alors, vous avez quand même, ça se voit, vous avez travaillé énormément. Vous avez sacrifié beaucoup de temps. Et finalement, vous êtes rendu à ce rêve. Hein, vous avez eu un rêve d'avoir votre propre maison. Est-ce que c'est exact?
Oui, c'est exactement ça.
OK. Alors là, vous achetez la maison. Écoutez, là, qu'est-ce qu'on fait avant d'acheter une maison, madame?
Moi, vu que je connaissais rien dans les maisons, j'ai jamais été propriétaire, j'ai jamais fait de rien pour pouvoir m'en acheter. J'étais pas capable. Fait que c'était la première fois. Fait que j'engage un agent immobilier pour me trouver une résidence, pour qu'elle s'occupe des papiers, qu'elle voit que tout est...
Voilà. C'est la procédure courante. Hein. Alors, vous trouvez un agent qui s'en occupera pour trouver la résidence que vous souhaitez avoir. Et après ça, cette procédure, vous faites quoi, là? Vous engagez un...
Étant donné que la maison... Ça faisait pas longtemps que je travaillais. Ça faisait seulement qu'un an et demi que j'avais mon poste au CHU. Je pouvais pas aller un gros montant d'argent. Je pouvais pas investir plus que 100 000 $ Fait que c'était vraiment vérifié. Moi, de toute façon, ça me dérangeait pas. Mes parents, ils ont une maison qui est assez âgée, est en bon état et tout ça. Mais moi, les vieilles maisons, ça m'intéresse beaucoup. Et cette maison-là, on l'a trouvée à Saint-François. Mais le monsieur, la personne qui le possédait, l'avait depuis 2 ans, mais il l'avait acheté sans garantie légale à une personne qui était décédée.
Oui.
Mais moi, mon agent d'immeuble me dit, c'est pas grave, tu l'as fait inspecter.
Exactement. Donc, avant d'aller dans l'histoire de l'inspecteur qui est venu se présenter pour faire son travail, vous quand même, vous avez eu un budget limité. Vous savez que vous achetez la maison et vous avez tout fait pour que la maison soit au moins qu'il n'y aura pas de gros problèmes là que financièrement que vous allez avoir des. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, exactement. Oui. Moi, c'est ça, c'était pour me protéger, c'est payer un inspecteur qui va l'inspecter, surtout qu'elle était sans garantie légale.
Oui.
Il fallait absolument que je fasse inspecter cette maison-là et mon agent d'immeuble m'a dit « Tu te protèges quand tu fais inspecter la maison. » Même si elle avait eu une garantie légale, je la faisais inspecter quand même.
Oui. Alors là, vous avez appelé votre inspecteur. On ne peut pas faire mieux, hein, on appelle un inspecteur. Vous lui demandez « Monsieur, vérifiez-moi cette maison-là. Est-ce que je devrais l'acheter ou non? Est-ce qu'elle est dans bonnes conditions? Est-ce qu'il y aura des travaux à faire plus tard, oui ou non? »
Exactement ça. Moi, mon agent d'immeuble, elle m'a référé l'inspecteur en bâtiment. Elle m'a donné sa carte d'affaires.
Alors, est-ce qu'elle le connaissait? Elle ne le connaissait pas? Ou est-ce
que qu'elle avait utilisé ses services, c'était un très bon inspecteur.
Voilà. Alors, vous êtes sur place, vous appelez l'inspecteur, et l'inspecteur, il est devant vous. Qu'est-ce que vous avez constaté?
Ben moi, il me fait des rapports au fur et à mesure, me dire la boîte électrique est en ordre, ta plomberie est en ordre. Pendant ce temps-là, moi, j'avais le vendeur à qui je posais des questions pour savoir, je vais-tu aimer ça, moi, ce coin-ci, là, la maison, comment ça se passe. Je posais des questions au vendeur, il était toujours à côté de moi, et l'inspecteur, au fur et à mesure qu'il inspectait, me disait, tout est beau, ça c'est beau, il n'y a pas de problème.
Ça veut dire que, Madame Lacasse, vous avez... À propos de l'inspection, ce n'est pas votre domaine. Vous, là, vous avez laissé ça pour l'inspecteur. Et vous, vous êtes occupé un petit peu de l'autre côté, de voir est-ce que j'arriverai à habiter dans ce coin-là, est-ce que j'aime la région, est-ce que c'est ça, hein, le souci?
Oui, ben, c'est ça, mais je posais des questions sur la maison aussi. Y a-t-il assez de prise de courant dans la maison?
Ouais.
L'eau, est-ce comment est-ce qu'elle est? Moi, je ne connais pas ça. Et puis, moi, j'ai grandi dans une ville où ce que c'était l'aqueduc là, de la ville là, qui nous fournissait l'eau.
Ouais.
Fait que je pose des questions sur le puits, comment ça fonctionne, si l'eau est bonne, l'eau est ferreuse. Toutes ces choses-là.
Est-ce qu'il y a...
Et j'ai même goûté un verre d'eau, là, puis monsieur me disait l'eau est douce ici. Pourtant, cette information-là était fausse et mon agent d'immeuble le savait. Elle ne me l'a pas dit que quand le vendeur m'a dit que l'eau était douce, elle savait que l'eau était dure parce que on vit sur le roc ici. Mmh. Elle a grandi dans ce village-là ici. C'est qu'elle était au courant, mais elle ne me l'a pas dit. Tout de suite, elle aurait dû me dire le monsieur t'a menti. Il peut cacher autre chose.
Mais l'inspecteur en question, là, il vous a jamais dit qu'il y a des gros, on dit des gros majeurs, des problèmes majeurs. Donc,
jamais.
OK. Alors, ça veut dire que vous avez, si on peut conclure un petit peu, il vous a rassuré d'aller en avant pour acheter la maison.
Exactement.
OK. Et là vous habitez.
Moi, le jour où je suis déménagée ici, la première journée que je suis emménagée, écoutez, j'ai même pas été capable de me faire couler un bain.
Oui. Vous, la première journée où vous rentrez dans la maison, là, c'est les problèmes qui commencent.
Les problèmes ont commencé la journée même. Écoutez, il faisait 30 degrés dehors. Je voulais prendre un bain dans mon bain, dans ma maison.
Oui.
4 pouces d'eau, l'eau sortait rouge, plus d'eau.
Alors, voilà. Et vous constatez aussi, qu'est-ce que vous constatez après aussi?
Bien, moi, les armoires étaient faites, il y avait à peu près un angle de 5 degrés, les tablettes d'armoire. Il fallait que je refasse les armoires au complet, la vaisselle serait tombée à terre. Il a fallu que je défasse tout ça pour recommencer. Mais au moment où que on a commencé à avoir des problèmes avec le puits, c'est de faire creuser le puits. L'ancien propriétaire a été obligé de faire creuser un puits, la notaire l'a avisé. Moi, le puits, les photos ont été prises. Le puits était complètement fini, mais le monsieur avait un test d'eau qui était impeccable.
Oui.
Fait qu'il a fait tester de l'eau qui venait d'ailleurs. C'était impossible d'avoir un bon test d'eau dans l'état que le puits était.
Mais déjà, vous ne pouvez pas consommer de l'eau.
Moi, je la consommais parce que j'avais un test d'eau dans les mains qui disait que l'eau était potable.
Oui, oui.
Mais je travaillais à l'urgence à cette période-là et j'avais des maux de ventre la nuit. Et éventuellement, j'ai passé un test de sel pour me faire dire que j'avais des bactéries dans mes selles. C'est comme si j'avais été boire de l'eau dans une flaque d'eau à l'extérieur.
Là, c'est pas le seul problème que vous avez eu avec cette maison-là, j'imagine.
Aucun non. Mais en creusant le nouveau puits, il a fallu faire venir un électricien et un plombier. De là, l'électricien me dit « Madame, votre boîte électrique est dangereuse. Vous pouvez passer au feu n'importe quand. » Le plombier me dit la même chose. « Hey, ton chauffe-eau, il n'y a pas de valve de sécurité. Pourtant, c'est inscrit dans le rapport d'inspecteur. » C'est toutes ces choses-là qui ont fait en faire venir le plombier pour le puits et l'électricien que les problèmes ont commencé. Fait que j'ai fait réinspecter la maison une deuxième fois et là, j'ai eu la vraie couleur de la maison.
OK, mais l'inspecteur que vous avez, le deuxième inspecteur que vous avez fait venir, est-ce qu'il est dans la même région? Est-ce qu'ils se connaissent avec l'autre ou non?
Lui, il venait d'une autre région. Moi, je suis allée sur le site là, des inspecteurs en bâtiment du Québec et je suis allée me chercher un bon inspecteur. Okay. Lui, il a sans regarder l'inspection du premier inspecteur.
Il a refait une autre.
Une bonne idée comment l'inspection aurait dû être faite. Là, il m'a tout sorti ça. Suite à ça, moi, j'ai fait venir un contracteur pour avec la deuxième inspection pour m'évaluer
les coûts?
Le coût des réparations qu'il avait à faire dans la maison. Le premier inspecteur, moi, sur place, la journée de l'inspection, je lui ai posé la question. J'ai dit, à quoi je peux m'attendre comme travaux? Il dit, 4 à 5 000 $. Je peux vivre avec ça, 4 à 5 000 $.
Oui. Et le deuxième?
Le deuxième, lui, en faisant venir l'évaluateur, lui me dit que j'ai 72 000 $ de réparation majeure à mettre sur la maison.
My God, c'est la valeur de la maison, là.
C'est ça, c'est la valeur de la maison. Et ça va vous coûter moins cher l'acheter par terre et d'en construire une neuve.
My God. Alors, madame, je comprends, là, vous êtes, pris dans l'emballage, là, comme on dit. Là, vous avez fait quoi? Là, vous allez tourner vers la justice, vous allez faire quoi?
J'ai tout de suite tourné vers la justice. Je suis allée rencontrer un avocat. Le premier avocat que je suis allée voir, lui, il me dit « Ah, ça n'a pas de bon sens, on va demander l'annulation de la vente. » Moi, j'étais d'accord avec ça, parce que j'ai dit « Écoute, je suis pas capable de faire ça. J'ai de la misère à visser une pôle à serviette dans un mur qui soit vraiment au niveau. » Fait que c'est vraiment l'annulation de la vente. Mais en montrant que l'évaluateur qui a évalué la mesure des travaux à faire. Lui, c'était juste pour montrer un exercice que le 5 000 $ que l'inspecteur me disait, ça fonctionnait pas du tout, ça matchait pas avec le 72 000 de l'autre. Là. Mais eux autres sont allés me poinçonner là-dessus. C'était vraiment là, dire que je demandais des réparations, puis je savais, j'étais au courant de ces réparations-là. Non, j'étais pas au courant de ces réparations-là. L'inspecteur m'a vraiment dit 4 à 5 000 $.
Non, mais cet inspecteur, le premier inspecteur, est-ce que vous l'avez affronté? Est-ce que vous l'avez parlé? Est-ce que vous l'avez dit?
Oui, je l'ai fait revenir ici.
Oui.
J'avais un témoin ici à la maison, une amie à moi, quand il est revenu ici, je l'ai affronté, je lui ai dit, écoute, là, tu l'as-tu vérifié la boîte électrique? Et il me répondait, ben moi, si je vous dis que je l'ai faite, c'est parce que je l'ai faite. J'ai dit, les planchers, t'es as-tu regardé? C'est facile, c'est même pas couvert, les plafonds sont même pas finis dans la cave. Si vous dites que je l'ai vu, c'est parce que je l'ai vu. Si vous dites que je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Moi, là, j'ai appris à être inspecteur en bâtiment. Si mon père m'a montré comment faire, j'ai pas de compagnie, n'importe qui peut être inspecteur en bâtiment.
My God, c'est donc la version a totalement changé. Alors, vous l'avez quand même dit, Mme Lacasse, comme quoi, j'imagine vous l'avez dit, que comme quoi on vous parlait de 4 000 à 5 000 $ de réparation. Et là, on parle d'environ 70 000, là. Il y a un mauvais chiffre, là.
Le chiffre n'est pas pareil, là.
Ah, du tout, là.
C'est pas la même chose.
Alors, vous cherchez justice, hein? Vous êtes allé vers la justice pour chercher justement justice. Vous avez vu les deux avocats, un avocat le premier. Et ça, est-ce que ça marchait avec l'avocat? Vous avez pu aller avoir une audience pour ça?
Le premier avocat comme tel s'est occupé de faire les pré-interrogatoires, parce qu'il y a des pré-interrogatoires qui ont été faits l'année suivante. Ce que j'ai, moi, même mon avocat, le premier que j'ai eu, à un moment donné, il m'a fait rencontrer un investigateur des assurances de l'inspecteur qui m'a interrogé pendant une heure de temps. Il s'est même pas assis à côté de moi pour s'assurer que tout se passait bien. Mmh. Il allait faire des téléphones, il revenait, il repartait. Par la suite, je me suis aperçue, il a fini par me dire que au moment où j'ai eu des problèmes avec mon puits, le vendeur l'avait consulté lui pour savoir s'il devait creuser un puits ou pas. Mm-hmm. Il était responsable. Fait qu'il y avait déjà un conflit qui était là, puis il m'avait pas mis au courant. Il aurait même pas dû prendre le dossier.
Ça, c'est l'avocat?
Oui.
Oh my God. Il y a eu un conflit d'intérêt déjà, au départ.
Il y avait un conflit en partant, mais là, il voulait faire de l'argent. Oui, t'as un dossier béton, c'est super beau, tout est là. Et après ça, ben, tu vois qu'il commence à vouloir que j'accepte une offre de 4 000 ou 5 000 $.
Okay.
C'est quoi cette affaire-là? Tu peux pas accepter 5 000 $ quand il y a 70 000 piastres de réparation à mettre. C'était complètement ridicule.
Il veut vendre la maison, il veut vendre aussi, hein?
Ben, c'est ça. Lui, il faisait, au début, il dit oui, moi, je vais être capable de te défendre. Ben, après ça, il arrive puis il voudrait que tu acceptes une offre hors cours.
Alors là, vous refusez justement l'offre de hors cours et vous changez aussi votre avocat.
Je change d'avocat.
OK. Alors, vous tombez dans un deuxième.
Un deuxième avocat qui, lui, me dit, mon Dieu, t'as un dossier béton.
Ah, oui.
Mon dossier est déjà épais. Il me dit, ah, moi, je vais te gagner ça, j'ai un spring dans le derrière.
Ne s'inquiétez pas, c'est ça.
Moi, là, je suis bon là-dedans, puis je vais foncer.
Oui.
Mais la réalité, c'est qu'au début, oui, il voulait foncer. Et puis, plus le temps passait, pire c'était. Fait que lui, quand il a pris le dossier, on était rendu au pré-interrogatoire des personnes que je poursuivais. Il y en avait 4. Il y avait l'agent immobilier du vendeur, il y avait mon agent immobilier, parce qu'elle savait que le gars mentait, s'en est pas occupé. J'avais le vendeur et l'inspecteur en bâtiment. Eux autres devaient être pré-interrogatoire pour être capables de bâtir le dossier puis avoir moins de temps de cours. Sur les pré-interrogatoires, lui était incapable de le faire parce qu'il venait de tomber dans le dossier. Je lui ai tout préparé au complet, toutes les questions.
À l'avocat?
À l'avocat. Ouais. Il avait tout ce qu'il fallait faire le pré-interrogatoire la semaine suivante.
C'est bizarre, Mme Lacasse, parce que c'est une technique, hein, dans presque tous les avocats, ou la plupart des avocats, la majorité des avocats, ils ont cette technique-là de dire, écoutez, ah, c'est béton, c'est un dossier que je vais défendre. Et une fois, ils vont mettre la main sur le dossier, dans la pâte, ça change, hein. Donc là, ils commencent à refroidir. C'est bizarre, c'est juste pour on dit que pour gagner de l'argent au départ, ils sont ouverts, mais une fois, ils rentrent dans le travail, ils font moins de travail.
C'est tout à fait ça. Écoutez, moi, là, j'avais des témoins qui devaient être appelés. Ils refusaient catégoriquement de faire venir mes témoins.
OK, ça, c'est à la cour.
C'est mon avocat.
Ah oui, mais c'est à la cour.
Oui, à la cour. Moi, je voulais que mes témoins viennent. L'électricien, le plombier, mon ami Julie, qui a tout vécu avec moi et qui savait, qui est au courant de tout, qui était là quand l'inspecteur en bâtiment est venu chez nous me dire qu'il n'y avait pas de compagnie.
Oui, mais Madame Lacasse, on va lui demander de témoigner après. Mais je continue un petit peu là, dans la même veine là.
Oui. Bon, mais rendu à la cour, par exemple, tout ce qui s'est passé, rendu à la cour, j'ai commencé mes poursuites à l'automne 2010, et puis on a passé en cour seulement qu'en février 2014. On arrive à la cour en février 2014. Moi, j'avais tout préparé, des documents photos, j'avais tout. J'ai tout fourni.
Vas-y.
Et puis, arrive à la cour, mon avocat, la première chose, c'est l'avocate de l'inspecteur en bâtiment, dit, vous pouvez pas poursuivre monsieur parce qu'il a une compagnie. Mon avocat dit, j'ai complètement oublié de vérifier ça.
OK.
Fait que là, écoutez, moi, tu mets ça dans les mains d'un avocat pour qu'il s'occupe de tout.
Oui.
Pourtant, le numéro sur le contrat est écrit, le numéro de compagnie. Mais sa carte d'affaires, c'est pas écrit. Sur sa carte d'affaires, il n'y a pas la même inscription que sur le contrat et que sur son rapport d'inspection.
Mais qu'est-ce que vous voulez, là, les avocats, ils oublient souvent. Hein. Dis-moi, madame...
Pardon. Le moins d'efforts.
Oui, le moins d'efforts, il disait M. Barnabé. Dis-moi, madame Lacasse, alors là, on a bien compris là, que l'avocat, il a refusé que vous présentiez vos témoins pour témoigner, parce que c'était l'appui, hein, vous avez, c'est des preuves pour vous. Hein,
parce que ces témoins-là, ils voulaient même pas que je fasse venir l'ancienne conjointe qu'elle avait vécu dans la maison. Ils disent, je vois pas du tout qu'est-ce que ça va donner. Mais au moins, j'ai vraiment insisté pour l'ex-conjointe parce que le vendeur, comme tel, disait qu'il n'avait jamais utilisé le poêle à bois les 2 ans qu'il était ici. Moi, j'avais mes voisins qui me disaient le contraire et j'avais eu une augmentation de 1 000 $ par année après la première année.
Oui. Mais madame Lacasse, pour vous, là, vous reprochez un petit peu à l'avocat, c'est une incompétence selon vous ou bien vraiment il a voulu gagner du temps et finir avec le dossier?
Moi, je crois que lui voulait tout simplement se faire payer et gagner du temps pour que ça aille plus loin, pour pouvoir faire plus d'argent avec moi.
Oui. Alors, est-ce que vous a, à un moment donné, vous a essayé de convaincre, de vous convaincre ou de justifier pourquoi vous ne devrez pas présenter vos témoins à la cour?
Écoutez, il me disait que c'était des détails. C'est des détails. Il me disait que j'étais fatigante avec mes détails. Il me semble que les détails sont importants. Pendant qu'on était au restaurant, pendant la cour, la troisième journée, j'ai été interrogée. C'est là que j'ai vu que le document de l'inspecteur en bâtiment avait été falsifié.
Voilà, ça, c'est une pièce aussi.
J'ai fait la cour à la juge. Pendant 2 minutes de temps, je tourne les documents. Moi, j'ai une technique administrative au cégep. Écoute, je vois qu'est-ce qui se passe. Je vois les fautes de français. Écoute, je vois qu'il a changé de stylo pendant son inspection.
Madame Lacasse, juste pour les gens... Madame.
Écrit avec un stylo différent, une écriture différente. Il inscrit que trouver de la moisissure puis de l'eau.
Madame Lacasse, juste pour les gens qui vous écoutent ce matin, vous parlez d'une pièce qui a été déposée à la cour.
Oui.
Et ça, vous parlez du rapport de l'inspecteur?
C'est le rapport, c'est les notes qu'il prend pendant qu'il fait son inspection.
Okay.
Et puis, c'est tout écrit à la main. Puis, après l'inspection, moi, j'initiale chaque chose qu'il a inspectée dans la maison.
Mais à la cour, il présente un document et vous constatez qu'il y a des choses qui étaient ajoutées et que vous n'avez jamais mis votre initiale sur ce paragraphe.
Ouais. Exactement. Et je le dénonce à la juge. Et puis, je demande à mon avocat de venir voir le document. J'ai dit, il faut que tu viennes voir ça, là. Je veux que tu le regardes. On va s'en occuper, madame, tout à l'heure. Pendant l'heure du dîner, je lui dis, écoute, c'est son inspection. Il y a un endroit que j'ai pas initialé. Il a rajouté qu'il avait trouvé de l'eau et de la moisissure. J'ai dit, écoute, là, j'ai dit ça, là, c'est de la falsification. Après avoir signé, il a pas le droit de faire ça.
Oui.
Lui, tout ce qu'il me dit, on va s'en occuper. Mais au début, il me disait, t'es fatigante avec tes maudits détails. Mmh. Mais je retourne en cours, il ne s'occupe pas du document. Là, on est en février. Là. Mm-hmm. J'ai dit, moi, je veux avoir une analyse d'écriture. Je fais toutes les démarches pour ça. Je le rappelle à tout bout de champ, dire, hey, le document, quand est-ce qu'on va le faire analyser? On s'en occupe. On arrive au 22 juillet, il n'y a toujours pas le document dans les mains. Il n'y a rien fait.
Alors, pour vous, Mme Lacasse, la falsification, elle est évidente. Hein? Et vous avez même, à un moment donné, vous avez quand même voulu signaler ça à la juge, au juge même.
À plusieurs reprises, j'ai écrit des lettres à la juge. Moi, mon avocat, il m'accusait d'avoir essayé de tromper la cour. Il m'a envoyé une lettre. C'est là que je l'ai congédié. Et en recevant tous les documents, j'ai décidé que j'allais me représenter seule pour pouvoir interroger l'inspecteur et le vendeur.
Oui.
J'ai dit, moi, je vais y aller. J'abandonne pas ça là. J'avais le droit d'aller interroger moi-même les personnes. Je suis arrivée là. Écoutez, je me suis fait refuser mes photos, refuser mes documents, je me faisais tout refuser parce que ça aurait dû être fait avant le février 2014.
Alors que là,
mes photos que j'avais comme preuve qu'il y avait de la moisissure dans la maison, beaucoup de moisissure, tout était noir dans la salle de bain, j'ai enlevé ce que l'autre avait recouvert. Il avait recouvert de la moisissure, tout est pourri. Écoutez, ce qu'il a fait, mon avocat, il a envoyé les photos par télécopieur. C'est ce qu'il y avait comme preuve à la cour. On ne voyait rien du tout sur les photos.
Ah, c'est vrai, les photos, c'est noir et blanc.
C'est noir et blanc.
Et on ne peut pas voir les détails.
Et bon, rien du tout.
My God, oui, oui.
J'étais en colère contre mon avocat. J'ai dit, bon, moi, je les ai, mes photos. J'avais des beaux documents en couleur que j'avais montés.
Qu'on peut mieux voir la
majesture. Refusé par la juge. Mais moi, j'ai réussi à les montrer parce que j'ai dit à la juge, j'ai dit, écoutez, si vous voulez pas les voir, les photos, je vais toutes vous les expliquer une par une. Oui. Fait que j'ai commencé à vouloir les expliquer, mais ils les ont vus. La juge les a vus, les photos.
Oui.
Parce qu'elle a fini par regarder mon document, mais ils ont été refusés comme pièce. Elle s'en est servie juste pour regarder, mais elle les a vus.
Mais elle a quand même constaté comme quoi entre les photocopies et les originaux, il y a une grande différence, là.
C'est certain, on voyait rien sur les autres photos.
Oui. Et pour le papier de falsification, là, le rapport qui est falsifié, vous avez quand même essayé d'approcher la juge, la demander. C'est une dame.
Oui, c'est une juge.
Alors, vous demandez à la juge, madame la juge, écoutez, là, quand même, c'est un papier falsifié. Est-ce que vous remettre en question le document qui est déposé? Et elle a refusé.
Elle a refusé.
Ah, écoute, OK. Alors, et puis votre dossier, j'imagine que votre requête a été rejetée non plus aussi. Hein.
Moi, j'ai fait moi-même ma plaidoirie par écrit, parce que la juge, tout le long que j'interrogeais, faisait des interrogatoires, à toutes les fois j'essayais de montrer une photo, un document ou quoi que ce soit, elle me disait, vous le mettrez dans votre plaidoirie, madame. Vous le mettrez dans votre plaidoirie. Elle n'arrêtait pas de me dire ça. Vous le mettrez dans votre plaidoirie, parce qu'à chaque fois, j'essayais de présenter ça au vendeur ou à l'inspecteur.
Oui.
Vous le mettrez dans votre plaidoirie. Ma plaidoirie, je pense qu'elle avait 15 pages. Avec photos à l'appui, avec documents à l'appui. J'avais tout ce qu'il fallait. Moi, l'inspecteur en bâtiment, juste pour un exemple, disait que dans son rapport, il inscrit qu'il y a du lambris dans ma salle de bain. Je lui ai posé la question en cours. En cours, ce qu'il me répond, c'est que du lambris, ça peut être de la céramique, ça peut être du plâtre, ça peut être du chiproc, ça peut être n'importe quoi. Ouais. C'est un matériel qui peut décrire n'importe quoi. Ouais. Tout le monde sait ça, que du lambris, c'est du bois, c'est des languettes de bois. Fait que c'est toutes des réponses comme ça qu'il donnait à la cour. Pour le document comme tel, quand je l'ai affronté avec ça, il dit, moi, j'ai pas pris de papier. Il y avait de l'eau dans ta cave.
Oh my God.
J'avais un portable. Fait que l'avocat, en fin de compte, elle, ce qu'elle a fait, c'est dire à son client de mentir.
Oui.
Parce qu'elle sait très bien qu'elle m'a présenté ce document-là. Je suis retournée deux fois au palais de justice pour avoir ce document-là. Il n'était plus dans les pièces du tout.
Oui.
Il était nul. On n'était pas capable de le trouver nulle part, ce document-là. Il était complètement disparu. Pourtant, je l'ai dénoncé à la juge. J'étais deux minutes sur les bandes audio qu'on m'entend tourner les pages. Là, sa pièce, D3, il restait une feuille de papier.
Oui. Mais tout ça, Mme Lacasse, là, j'ai pour dire aussi, alors vous êtes parti de rien, vous êtes allé vraiment vers la justice, hein, vous souhaitez avoir justice.
Oui.
Et vous avez traversé tout ce chemin-là très, très, très dur, hein, pour arriver. Alors, il y a les avocats, plusieurs, finalement, vous êtes présenté tout seul pour se défendre tout seul. Et malheureusement, vous tombez sur une juge comme ça aussi. Alors, qu'est-ce que vous gardez comme sentiment, là? Je sais que vous avez perdu maintenant, vous restez dans la même maison que vous avez acheté la première, c'est ça?
Première dans ma maison. Moi, quand ils ont inspecté la maison, l'inspecteur a même pas vérifié s'il y avait du chauffage dans mes chambres à coucher.
Ouais.
Il recommande d'installer du chauffage dans la cave parce qu'il n'y a plus de poêle à bois, mais dans mes chambres à coucher, il n'y en avait pas. Le premier hiver, je l'ai passé à geler parce que j'avais pas un sou pour faire venir un électricien puis installer le chauffage.
Madame Lacage,
dans mes chambres.
Oui.
Il n'y avait pas un système de chauffage qui fonctionnait bien dans la maison. Fait que le premier hiver, ça a été très, très, très difficile de rester ici. J'étais vraiment découragée.
Oui.
Mais l'inspecteur de l'abattement, écoutez, il a vraiment pas fait son travail. Puis le fait que lui, il y a une compagnie, l'a protégé et ça a été rejeté par la cour. Si je regarde dans le jugement de la juge, tout ce que j'ai apporté, que ce soit dans ma plaidoirie, en preuve, en questionnant le vendeur et l'inspecteur en bâtiment, elle n'a pas aucune référence à leur témoignage.
Oui.
C'est comme si moi, j'avais été la personne fautive.
Oui.
Et de dire que quand on voit que pour un acheteur prudent et diligent, tout ce qu'il a à faire, c'est de faire inspecter la maison. Oui. Écoutez, elle n'en tient même pas compte. J'aurais fallu que je tienne la main de l'inspecteur et que je refasse son inspection pour vérifier si son inspection a été bien faite.
Ah, c'est un peu...
C'est ça que la conclusion qu'elle donne.
Ouais.
Moi, je n'ai plus confiance du tout à la justice parce que moi, mon idée, c'est jamais la justice va prendre pour des menteurs. J'ai fait les preuves en cours qui ont menti que le demandeur n'a pas déclaré qu'il y avait de la moitié sûr, puis qu'il avait le plancher de la salle de bain avait défoncé, puis sa toilette avait coulé, puis sa laveuse, puis que tous les planchers étaient pourris. Jamais qu'elle va passer ça, là.
Oui,
ça passera pas. La justice ne peut pas prendre pour des menteurs. C'est faux.
Oui. Mais Mme Lacasse, malheureusement, vous allez quand même continuer à vivre avec ce sentiment d'injustice.
Je n'aurai plus jamais confiance en la justice.
Oui.
Plus jamais, jamais, jamais. J'ai perdu...
Madame Lacasse, juste pour peut-être parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, juste pour finir, vous avez quand même déposé une plainte contre les avocats au barreau, vous avez même déposé une plainte contre la juge même,
au
conseil des magistrature.
Oui, j'ai déposé une plainte au barreau contre mon avocat.
Oui.
Cette enquête-là a toujours lieu. Contre l'avocate de l'inspecteur qui a volé le document à la juge.
Oui.
Moi, j'ai fait une plainte et vous ne me croirez pas. Le barreau, la manière qu'ils font leur enquête, parce que ils m'ont répondu par courrier.
Brièvement, Mme Lacasse, brièvement. On n'a pas beaucoup de temps parce que je vais passer aussi votre...
Le barreau, c'est qu'il dit, il vérifie, il appelle l'avocat en question, il pose la question, ils disent non, ils raccrochent, ils ferment l'enquête.
OK. Madame Lacasse, dernier mot pour les gens qui vous écoutent ce matin. Est-ce qu'il faut vraiment baisser les bras ou il faut continuer à se battre contre les injustices?
Il faut vraiment continuer parce que, écoutez, moi, là, ce que j'ai vécu ça avec eux autres, j'ai vécu ça avec la régie du logement, j'ai vécu ça avec la protection de la jeunesse, j'ai vécu ça partout.
Ouais.
Là, je n'ai plus du coup de confiance. La justice est faite pour les criminels, elle n'est pas faite pour les gens honnêtes.
Je te remercie beaucoup, Madame Lacasse. On va écouter votre amie Julie qui va témoigner parce qu'elle a vécu quand même. Elle a vécu ce que vous avez. Elle a été témoin de ce que vous avez vécu. Alors, on va l'écouter.
Parfait.
Merci, Madame Lacasse.
Voilà, Julie.
Oui.
Oui, alors bonjour. Vous êtes une amie et meilleure amie de Madame Lacasse.
Oui.
Lise Lacasse, et vous avez assisté un petit peu, vous êtes témoin un petit peu de ce qui est arrivé avec cette dame-là.
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire ce matin?
Oui, depuis les 5 dernières années, Madame, elle se bourbe contre pour sa maison parce qu'il y a beaucoup de vis cachés.
Mmh.
Et puis, lorsque le.
L'inspecteur
en bâtiment est venu.
Vous étiez là?
Oui, j'étais là.
Okay.
Et puis, premièrement, il a dit que c'était son père qui lui avait montré le métier.
Mm-hmm.
Et puis, qu'il faisait ça en dessous de la table. Okay. Et on a après ça, à la cour, il a présenté des documents comme quoi qu'il y avait une compagnie.
Alors,
probablement qu'il a parti de sa compagnie après. On ne peut pas le prouver encore.
Mm-hmm.
Puis après ça, il disait que...
Ça, il n'a pas dit la vérité, là?
Ah, non, c'est pas. Fait que c'est pas ça, c'était tout... Ensuite, il disait qu'il avait vérifié les planchers, ce qui n'était pas vrai. Il disait qu'il avait vérifié la boîte à fusible. C'est pas vrai. Chaque fois qu'on nommait des choses, que Lise a nommé des choses, il répondait toujours, si vous le dites, madame, si vous le dites, madame, si vous le dites,
mais,
madame.
Mais madame, vous, quand vous étiez là, vous avez assisté
Oui, j'étais là quand il disait ça. À chaque fois qu'elle nommait des choses, elle dit, as-tu vérifié mes planchers, supposons? Ah, si vous le dites, madame, que je les ai vérifiés, je vais l'avoir vérifié.
OK.
Tout simplement. Puis il a remis son rapport de vérification. C'est un tout petit rapport de rien du tout. Là.
Mais vous, Madame Julie, quand vous étiez là sur place, quand l'inspecteur était là, est-ce que vous l'avez vu, il a fait son inspection? Vous l'avez vu en train de regarder?
J'ai pas vu l'inspection en tant que tel, mais lorsqu'il est revenu, puis il a remonté, il a dit, t'avais pas vu ça? Tu sais, là, certaines affaires, il dit, non, ça, je l'avais pas vu, et ça, je les avais pas vues.
OK.
Puis il y avait plusieurs choses qu'il n'avait pas vues.
Mais à la cour, il a dit qu'il les a vues.
Puis à la cour, là, ça, c'est une autre histoire.
Une autre histoire, OK.
Puis lorsque, à la cour, son avocat, premièrement, se battait, c'est pas battu pour elle du tout, du tout.
Pourquoi vous dites ça, madame?
Parce qu'il n'a pas argumenté pour elle du tout. Deuxièmement, à un moment donné, il y a eu un document qui s'est présenté. qui était comme un peu, je pense que le document a été falsifié parce que pour chaque chose qui a été écrite, madame devait initialiser à côté.
Tout à fait.
Puis, c'était plus la même écriture sur le document, puis madame, elle a sursauté. Puis même, madame, elle m'a regardé. Même Lise, elle m'a regardé en voulant dire, le document est pas pareil. J'étais dans la cour parce que là, comme j'étais plus témoin, parce qu'ils voulaient pas que je témoigne, parce que l'inspecteur, il disait, non, comme, je veux pas qu'elle témoigne, elle va me faire trop de tort, elle. Fait que tout ça, ils ont exigé que je témoigne pas.
C'est objecté pour votre témoignage, OK.
C'est ça. Fait que, donc, c'est pour ça que j'ai pu assister au procès. Puis, quand ils n'ont jamais voulu présenter le...
Mais quand Mme Lacasse, elle a vu le papier devant elle, puis elle a fait...
Elle a été falsifié. Elle a essayé de le montrer à son avocat, mais la juge n'a pas voulu.
OK. Elle a refusé.
Elle a refusé. Puis même son avocat, il n'a même pas essayé de se lever, de dire objection, je veux voir absolument le document, puis rien de...
Vous êtes sortis ensemble et vous étiez allés dans un restaurant, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'elle m'a raconté, Mme Lacasse.
Ouais.
Et vous avez... vous étiez vous et elle et votre avocat. C'est ça? L'avocat de madame, c'est ça? Et elle a reproché à l'avocat comme quoi, écoutez, là, il y a une falsification, pourquoi vous n'avez pas... C'est quoi l'attitude? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a répondu? Quelle est sa réaction de l'avocat?
Il dit, je peux pas rien faire, je l'ai pas vu, comme si rien n'était. Puis il dit, si je demande, là, il dit, faut que je vérifie, demander, si je demande une falsification, vérifie, si je commence les procédures pour voir s'il y a vraiment une falsification, ça coûte de l'argent, blablabla. En tout cas, il s'est mis à éthérer, là, tout pour vraiment, là, décourager Mme Lacasse. Tout le temps.
Mais à la cour, Mme Lacasse, elle a dit, est-ce que vous étiez témoin, est-ce que Mme Lacasse, elle a souhaité parler à la juge pour lui dire, écoutez, là, c'est un papier falsifié ou non?
Oui, elle a dit, je veux montrer ce papier-là à mon avocat, puis les avocates des autres parties ont dit non, on s'objecte.
OK. Et pour elle, c'était vraiment une pièce...
C'était la pièce maîtresse parce que il était vraiment falsifié, le document.
Oui. Et vous, madame, OK, là, je comprends que vous étiez témoin, vous étiez une amie à vous et tout. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de... C'est un sentiment d'injustice qu'elle a eu, Mme Lacasse.
Oh, mon Dieu,
elle a vécu d'injustice. Et depuis, comment elle vit avec ça?
J'ai jamais vu une femme si forte, par exemple. Mais moi, personnellement, pour moi, ça ferait longtemps, là, mais j'aurais baissé les bras.
OK.
J'aurais tout abandonné. Mais une femme qui se bat comme ça, j'ai jamais vu ça.
Oui.
Parce que... Elle se bat, elle a passé par tous les moyens qu'elle a fait, là. Elle se bat, c'est effrayant.
Donc, elle a pas eu justice, selon vous?
Non, pas du tout. Pas du tout.
Non plus l'aide de son avocat non plus?
Encore bien moins.
Pourquoi vous témoignez ce matin?
À dépenser une fortune pour rien.
Mais pourquoi vous acceptez de témoigner ce matin pour madame?
Parce que, premièrement, si ça peut moindrement l'aider... Peut-être ça ne l'aidera pas, je ne sais pas. Si ça peut moindrement l'aider, tant mieux.
Ah, oui. De toute façon, elle est en train de partager avec le public.
Tant mieux pour elle, si ça peut l'aider.
Oui. Vous trouvez ça un petit peu dommage, malheureux que ça ait été passé comme ça?
Mon Dieu, oui.
Oui.
Parce que même, ça ne méritait pas ça. Deuxièmement, je comprends pas qu'il ait pu faire, il ait pu... Moi, personnellement, je ne serais pas capable, même rendu à la cour, je dirais, non, je ne peux pas aller si loin que ça. Je dis, non, madame, excusez-moi, je repaye mes frais, je reprends maison, n'importe quoi, j'abandonne la vente. Non, je ne serais pas capable. Les autres, ils continuent. Non, tout est beau, c'est madame qui a tort.
C'est pas facile de vous le dire que c'est pas facile d'être face à la justice.
Ah non, moi, je serais pas capable d'être aussi malhonnête que ça. Puis, puis les autres, la justice, bien là, ils continuent, ils disent, bien, c'est les autres qui ont raison, c'est madame qui a tort.
Oui, mais selon l'expérience que vous avez vécue comme témoin, est-ce que vous avez toujours confiance à la justice?
Moi?
Oui.
J'ai jamais eu confiance à la justice. Jamais. Jamais.
Oui. Mais vous dites aussi aux gens qui vous écoutent ce matin qu'il ne faut pas baisser les bras non plus.
Faut vraiment vouloir, par exemple.
Oui, c'est pas facile.
Faut vraiment, mais vraiment vouloir.
Ouais.
si vous croyez en la justice, il faut vraiment vouloir.
Ça devient très difficile d'obtenir justice.
Oui. Hein? Je ne sais pas comment je l'ai. Je cherche son nom présentement. Je sais juste qu'il s'appelle Claude, celui qui s'est battu là, pour Robinson Crusoe, là, puis d'aller jusqu'en Cour suprême. Là.
Oui.
Je me souviens plus de son nom. Claude Robinson. Lui, il peut dire qu'il croyait en au système judiciaire parce qu'il s'est battu jusqu'en Cour suprême. Mais
c'est pas tout le monde qui peut.
Mais lui, vraiment, il croyait à son système. Oui. Mais je ne sais pas comment qu'il a fait lui, mais j'aimerais vraiment avoir son tour de force juste un peu.
Ça, tu veux dire, vous êtes en train de dire que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir
force. Ah non, c'est pas tout le monde qui peut être aussi fort que lui.
C'est triste. Ok, Julie, je te remercie beaucoup. Hein, vous habitez à Sherbrooke, hein?
Oui.
À Trois-Rivières ou Sherbrooke?
Sherbrooke.
À Sherbrooke, c'est ça. Alors voilà, je vous remercie énormément d'avoir participé à cette émission de ce matin. Et je vous souhaite une excellente journée, madame. Merci.
Merci.
Au revoir.
Bye bye.
Ok, t'es dit. Voilà, chère auditrice, chère auditeur, c'était le témoignage d'une amie Julie, d'une amie de Madame Lise Lacasse. Alors, vous voyez comment il faut pas vraiment baisser les bras. Les abus de pouvoir et les injustices vont continuer tout le temps. Mais le devoir d'un citoyen, c'est celui de continuer aussi de les dénoncer publiquement. Je pense que c'est la seule voie que nous possédons présentement. Alors sur ça, chère auditeur, chère auditrice, je vous donnerai un rendez-vous pour la semaine prochaine et je souhaiterais aussi à tous ceux ou celles qui veulent participer à cette émission de nous appeler au 514-273-4302. Je vous rappelle 273-4302. N'oubliez jamais que les dénonciations des abus de pouvoir, c'est un devoir du citoyen. Alors sur ça, je vous dis merci et merci à Radio Centre-Ville de nous avoir cédé cette fenêtre afin que la parole de l'autre existe. Au revoir.
Sur les problèmes de société, coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel basson la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconnu. constituera en direct le crime.
Ici Marc-André Coallier.
Et Ève Landry.
Heureux porte-parole du 20e anniversaire du festival Vue sur la relève, présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor.
17 au 18 avril, venez découvrir les grands noms de demain dans 6 salles de Montréal.
Originaux et audacieux, ces spectacles reflètent les tendances de l'heure dans toutes les disciplines des arts de la scène.
Mur affirmé, bien ancré depuis 20 ans, le festival demeure à l'image de ses artistes. Jeunes, passionnés, fougueux, amoureux des arts et animés d'une énergie revitalisante.
Billets à vuesurlarelève.com.
Vous préparez votre dossier pour la résidence permanente ou vous faites votre demande de citoyenneté? Vous devez présenter le TEF professionnel, TEFAC ou TEF Canada. Une seule adresse à Montréal, ALC Montréal, 514-844-4849. Appelez dès maintenant au 514-844-4849 ou visitez-nous au alcmontréal.com et réservez votre place. On vous attend!
Contribuez au maintien de la seule radio communautaire multilingue de Montréal. En donnant maintenant de façon sécuritaire sur radiocentreville.com, vos dons sont déductibles d'impôts.
Radio Centreville.
Radio Centreville.
Radio Centreville.
Radio Centreville, 102,3 FM, un monde différent.
Radio Centreville, 102,3 FM.